BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. D'abord, ce vote en Europe, vote en faveur d'une surtaxation des véhicules électriques chinois, ça s'est fait aujourd'hui. Mais ça s'est fait dans la douleur, c'est le moins qu'on puisse dire. On va voir ça avec Justine Vassogne dans un instant. Michel Barnier qui prend de moins en moins de gants pour évoquer la situation de la France. Il dit que la crise financière nous guette. On va l'écouter dans quelques secondes et puis on dira un mot, vous savez, de cette grande messe annuelle qui doit commencer prochainement. Vous savez, les traditionnelles négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. On a des informations qui nous laissent penser que cette année encore, ça va être très, très, mais alors très tendu. On parle de ça dans le journal dans un instant. Et puis à 18h15, comme tous les vendredis, vous savez, c'est nos experts sans frontières qui viendront nous voir. Nos collègues, nos confrères de la presse internationale basée à Paris qui viennent nous juger, regarder comment elles voient la situation française et puis aussi nous dire comment dans leur pays on voit la France aujourd'hui. Des fois on s'inquiète, des fois on se rassure. C'est bon à prendre aussi. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 19h bien sûr.
Good evening business, le journal.
Donc oui, c'était attendu, c'est officiel, l'Union européenne a voté il y a quelques heures en faveur d'une surtaxe sur les voitures électriques importées de Chine. Bonsoir Justine.
Bonsoir Guillaume.
C'est passé, mais comme on dit, ça n'a pas été sans mal, Justine.
Oui, c'est une petite victoire pour la Commission européenne, mais comme vous le dites, elle a été arrachée de justesse parce que 5 États membres, dont l'Allemagne, se sont prononcés contre ces surtaxes. Pas assez pour bloquer le texte, mais suffisant pour montrer à quel point l'Europe est divisée sur la question. 10 États ont voté pour l'augmentation des barrières douanières, parmi eux la France et l'Italie. 12 se sont abstenus. La décision est maintenant dans les mains de la Commission et elle a les mains libres. Elle peut adopter la surtaxe, elle peut modifier le texte légèrement. Il faut se rappeler que c'est Ursula von der Leyen elle-même qui a décidé de lancer toute cette procédure. C'était il y a un an, presque jour pour jour. On la voit mal totalement rétro-pédaler. La Commission a tout de même précisé ce midi qu'elle continuait de discuter avec la Chine pour tenter de trouver une solution négociée. L'une des pistes serait de ne pas augmenter les droits de douane, mais d'instaurer un prix minimum à l'importation pour les véhicules électriques fabriqués en Chine. Pourquoi pas plafonner leur volume? La Commission se donne jusqu'au 30 octobre pour donner sa décision définitive.
Et signe que c'est passé de justesse, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions dans la foulée. Justement.
Évidemment, surtout du côté des perdants, si l'on peut dire, de cette décision. Pékin est évidemment vent debout et dénonce le protectionnisme de l'Union européenne. Réaction aussi de l'Allemagne, qui a changé de position pendant l'été parce qu'elle s'était abstenue lors d'un vote consultatif au mois de juillet. Berlin qui exhorte l'UE à éviter une guerre commerciale avec la Chine. Les constructeurs allemands, qui sont pour beaucoup dans ce volte-face de Berlin parce qu'ils sont très présents en Chine, ont tous dénoncé cette décision. Volkswagen évoque une mauvaise approche. BMW estime que ce vote est un signal fatal pour l'industrie automobile européenne. Le constructeur chinois Geely, qui va voir ses droits de douane augmenter de 18,8% si la décision est entérinée, fait part de sa grande déception. Le groupe public SAIC, propriétaire de la marque MG, qui est le plus touché par ces nouveaux droits de douane avec une surtaxe de l'ordre de 35%, avait prévenu avant le vote qu'il allait maintenir de toute façon ses prix en Europe, coûte que coûte. Pas un mot par contre de BYD qui n'a jamais, il est vrai, été très loquace sur le sujet et qui va pourtant voir ses droits de douane augmenter de 17% si la situation reste telle qu'elle, Guillaume.
Et ben voilà pour ce vote donc entériné aujourd'hui. Merci beaucoup Justine. On en reparlera avec nos experts évidemment tout à l'heure sur BFM Business. La France donc a voté pour, elle est satisfaite. Ceux qui par contre en France sont furieux ce soir, ce sont les producteurs de cognac. Parce que les Chinois avaient prévu de longue date de surtaxer les eaux de vie françaises si Paris votait pour ce dispositif. Écoutez ce soir Anthony Brun, c'est le président du syndicat des viticulteurs de l'AOC Cognac. Écoutez son point de vue.
Aujourd'hui, le gouvernement français, malgré le vote de ces taxes aujourd'hui, doit chercher une solution. Alors ça peut se faire en engageant des vraies discussions avec le gouvernement chinois, ça paraît très certainement probable. Peut-être que c'est ce qui est en cours de route et que c'est ce qui nous sera présenté, je l'espère, dans les jours à venir. En tout cas, le gouvernement français ne peut pas ne rien faire et voir le risque de voir disparaître ces filières que sont cognac et armagnac, purement et simplement. Et je pense que ça fait partie de ce qu'on attend. Aujourd'hui, on fait partie du deuxième poste exportateur au niveau national. Il faut absolument qu'on puisse être défendu sur le sujet. Quand la balance commerciale a le déficit qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'il est forcément sain de sacrifier un poste qui est systématiquement exportateur.
Voilà Anthony Brun pour l'AOC Cognac, propos recueillis par Adrien Guillaume Padovan, et puis on parlera évidemment aussi de ce sujet avec nos experts tout à l'heure. Pendant ce temps, Michel Barnier lui continue de faire du terrain. À quelques jours de la présentation au Conseil des ministres du projet de budget 2025, ça sera jeudi prochain, Michel Barnier qui a encore justifié aujourd'hui le choix de faire 60 milliards d'euros d'efforts l'an prochain. En gros, il le dit, c'est ça ou la crise financière finalement. Écoutez.
Dire que tout le monde va devoir comprendre que cet effort de réduction de la dépense publique, 40 milliards, c'est moins de dépenses. Hein. Mais ce freinage, il est indispensable. Sinon, on va droit vers une crise financière, c'est ce que je dis. Et c'est une crise financière, si elle est devant nous, et elle est devant nous, il faut la prévenir. Moi, je veux l'empêcher pour protéger les plus faibles, et notamment les épargnants. Hein. Donc, on va essayer de faire mieux ou bien avec moins d'argent. Et je pense que c'est possible.
Voilà, Michel Barnier aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme sur un grand salon agricole. Les agriculteurs, justement, qui suivent déjà à distance ce combat qui a déjà commencé entre la grande distribution et les industriels. Vous savez que les grandes négociations commerciales annuelles vont débuter dans quelques temps, mais d'après nos informations, on le sent déjà, on s'attend à un combat encore très musclé cette année. Pauline Tadevin.
De part et d'autre, on dégaine déjà les premières flèches. On sait que des distributeurs veulent des baisses de prix de 6%, ça alarme un gros industriel français. Beaucoup trop par rapport aux coûts avec lesquels on doit composer, nous dit cette source. Cette pression constante risque de tuer encore des marques, alerte une autre. D'autant qu'avec la transition climatique, on est sur un cycle structurellement inflationniste, ajoute un représentant du secteur qui dénonce le fait que les distributeurs négocient de plus en plus via des centrales européennes et tordent ainsi le bras aux fournisseurs. Michel Barnier a apporté de l'eau au moulin de ces derniers 7 semaines en demandant aux enseignes d'être plus transparentes sur leurs marges. Stigmatisation insupportable, rétorque la porte-parole des distributeurs qui estiment qu'on leur doit les baisses de prix en rayon et que s'il y a un effort de transparence à faire, c'est bien du côté des industriels. Par essence, la négociation restera conflictuelle, tempère un habitué de ces discussions qui appelle à veiller à ce qu'elles ne se soldent pas par des fermetures de fermes et de lignes de production.
Voilà pour ces négociations commerciales qui s'annoncent déjà haute en couleur. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. 18h07 aux États-Unis. Finalement, ça n'a pas fait un pli. Les dockers ont mis fin à leur grève dès la nuit dernière. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Ils ont plié le match en 3 jours et bien comme il faut apparemment, Antoine.
Oui, c'est une victoire pour les dockers. En l'espace de 3 jours seulement, ils ont réussi à faire plier les opérateurs portuaires. Les salaires seront augmentés de 62% sur 6 ans. Faut dire que le syndicat avait mis une pression maximale. La grève a paralysé tous les ports de la côte Est et du Golfe du Mexique. Des bananes aux meubles en passant par les voitures, les jouets ou encore les vêtements, plus rien ne rentrait. Les compagnies maritimes ont dû détourner une partie de leur cargaison vers la côte Ouest, un trajet plus long et donc plus cher. Tout cela menaçait d'étouffer l'économie et de relancer l'inflation. Du coup, la fin des débrayages, c'est aussi une très bonne nouvelle pour Joe Biden et Kamala Harris. C'est vrai qu'à 1 mois de l'élection présidentielle, une grève longue et des pénuries dans les magasins, ça aurait été désastreux pour les démocrates. La Maison-Blanche, d'ailleurs, a fait pression en coulisses pour que les compagnies portuaires lâchent du lest sur les salaires. Et c'est donc un Biden soulagé qui applaudit l'accord. Il parle d'un progrès crucial. Alors, il reste encore un point à régler. La question de l'automatisation des ports. Le syndicat réclame des garanties sur l'emploi. Les deux parties vont reprendre les discussions et se donnent 90 jours pour se mettre d'accord sur cet aspect.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard donc à Washington pour BFM Business. Et puis en France, on l'a présenté il y a quelques années comme une star montante de la télémédecine. La société H4D fait faillite. Elle gérait depuis le Covid plusieurs centaines de cabines de téléconsultation à travers tout le pays. Le problème, c'est que sur la durée, le modèle, comme on dit, n'a pas tenu. Mathilde Chaminade.
C'était une entreprise star du Covid. H4D avait encore levé 15 millions d'euros en 2020 et compte parmi ses investisseurs historiques BPI France. Ses cabines se sont multipliées, notamment dans l'Ain, le Val-d'Oise, les Yvelines ou l'Essonne. En Seine-et-Marne, près d'1 million d'euros a été dépensé pour en acheter une dizaine. Mais aujourd'hui, elle ne génère plus assez de prises de rendez-vous pour être rentable. Une explication, le manque de médecins disponibles pour assurer les consultations. La plateforme plateforme H4D n'étant pas rattachée à d'autres plateformes de prise de rendez-vous médicaux, comme Doctolib par exemple. Pour l'entreprise, c'est surtout l'inflation, les difficultés d'approvisionnement et les délais de paiement trop longs des collectivités qui ont mené à sa liquidation judiciaire. Mais ce n'est pas la fin des cabines de téléconsultation. Les concurrents d'H4D, Medadom et Tessan ont choisi une autre stratégie. Ils installent leurs cabines en majorité dans des pharmacies et de son côté, la SNCF ambitionne d'en installer 300 dans ses gares d'ici à 2028.
Mathilde Chaminade avec nous sur BFM Business. 18h10, on va sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé cette fin de semaine, Antoine?
Bien, ça s'est bien passé, c'est juste la semaine qui s'est mal passée. On perd plus de 3% sur le CAC 40, mais on reprend 0,85% là en clôture. 7541 points. Alors il y a eu beaucoup d'histoires d'entreprises. Ubisoft, négociation entre les Guillemot et Tencent pour voir si on peut retirer le titre de la cote et le groupe de la bourse. Plus 33,5% pour Ubisoft à 14,20€, mais parallèlement, le titre perd toujours la moitié de sa valeur depuis le 1er janvier. Elis qui gagne 10% après avoir abandonné ses ambitions du côté des États-Unis. Le titre cote à 20,46€. Puis alors à noter Esso, le raffineur qui gagne encore quasiment 8% en clôture aujourd'hui, 138,40€. Le titre gagne 148% depuis le 1er janvier. Simple filiale d'Exxon, mais on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Enfin, Pernod Ricard, moins 1,39, 131,05€, à contre-courant à cause de toutes ces mesures de rétorsion qu'on anticipe de la Chine après l'aval aux surtaxes européennes sur les véhicules électriques. On craint que le cognac en paie le prix et Pernod Ricard est un acteur important des vins et spiritueux. Rémy Cointreau est également en baisse. France CAC 40 plus 0,85%, 7541 points du côté de l'euro face au dollar, 1,0958.
Merci Antoine. Nasdaq, Wall Street. Wall Street.
Petit coup de Wall Street.
Allez, Dow Jones plus 0,27%, 42 127 points, on gagne 0,28%. L'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,7%, 18 040 points, tout ça à la mi-séance, 18h12, nos experts arrivent dans un instant, les experts de l'étranger, comme tous les vendredis, les experts sans frontières pour porter leur regard parfois acide, parfois assez bienveillant. Allez, sur la France, tout ça jusqu'à 19h, évidemment, à tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts sans frontières.
Eh oui, les experts sans frontières, vous savez, c'est notre nouveau concept. Tous les vendredis, on sollicite nos confrères de la presse internationale, nos éditorialistes internationaux pour voir comment eux regardent la France, comment est-ce qu'on regarde vue de l'étranger sur l'actualité toujours très 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 forte, en particulier ces temps-ci bien sûr. C'est encore ce à quoi on va s'atteler ce soir pendant trois quarts d'heure en direct sur BFM Business. Benaouda Abdelhaim est avec nous. Bonsoir Benaouda.
Bonsoir.
Éditorialiste international BFM Business. Nous accueillons Grégor Vachinski. Bonsoir Grégor.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant du quotidien Handelsblatt à Paris, célèbre quotidien allemand bien sûr. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur notre plateau. Et puis on est en visio, comme on dit, depuis Bruxelles avec notre consoeur Béatrice Rioz. Je ne sais pas si elle nous voit, nous entend. Bonjour Béatrice, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous suivez les européennes depuis Bruxelles et vous êtes avec nous ce soir à distance. Merci néanmoins d'être avec nous. Alors on va parler de beaucoup de choses. La France, à l'heure des choix, à l'heure des efforts, vous me direz d'ailleurs comment est-ce que vous regardez, vous, cet effort? Comment est-ce qu'il est perçu à l'étranger? 60 milliards d'euros d'efforts, en tout cas, pour réduire un tant soit peu nos déficits l'année prochaine. Michel Barnier l'a encore dit ce matin lors d'un salon agricole. C'est ça ou la crise financière, finalement? Écoutez.
Dire que tout le monde va devoir comprendre que cet effort de réduction de la dépense publique, 40 milliards, c'est moins de dépenses, hein. Mais ce freinage, il est indispensable. Sinon, on va droit vers une crise financière, c'est ce que je dis. Et c'est une crise financière, si elle est devant nous, et elle est devant nous, il faut la prévenir. Moi, je veux l'empêcher pour protéger les plus faibles, et notamment les épargnants. Donc, on va essayer de faire mieux ou bien avec moins d'argent. Et je pense que c'est possible.
Voilà, faire mieux ou bien avec moins d'argent. Grégor Vachinski, Handelsblatt, comment est-ce que vous regardez? Comment est-ce qu'on regarde en Allemagne ces premiers pas de Michel Barnier et cet effort, ce qu'il qualifie d'effort à hauteur de 60 milliards d'euros? Est-ce que ça convainc du côté de Berlin, finalement, Grégor?
Je pense que c'est l'heure de vérité maintenant pour la France, pour le gouvernement français en ce qui concerne sa situation budgétaire. Si on regarde ces dernières années, la stratégie était plutôt de temporiser, d'attendre un petit peu, de ne pas prendre des mesures. Et maintenant, on a vraiment ce sentiment aussi, il y a cette compréhension en France, il y a un moment où il faut donner la priorité aux coupes budgétaires, au redressement fiscal.
Vous sentez que du côté de Berlin, des autorités allemandes, on commence à penser qu'il se passe quelque chose, ou que Michel Barnier véritablement peut inverser une certaine tendance. Est-ce qu'ils ont un sentiment de ce déclic à Berlin, finalement?
Oui, mais il faudrait dire aussi qu'on a déjà entendu pendant des années qu'il y a une volonté de redresser les finances publiques. Si on regarde aussi les discours de Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire, ils ont dit aussi qu'on a cette volonté. Ils ont parlé de 2027 pour baisser le déficit français sous la barre de 3%, maintenant c'est 2029. Et je pense que sur le papier, c'est une trajectoire réaliste, oui, mais si on regarde cette incertitude politique en France qui persiste, est-ce qu'on aura vraiment encore ce gouvernement Barnier, par exemple, d'ici 2029? Et est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique d'aller jusqu'au bout?
Donc on est un peu en mode wait and see encore du côté de l'Allemagne, c'est ça finalement. Oui, Ben Aouda.
La prise en compte et la prise d'acte du fait que c'est une austérité stricte, qu'il y a 40 milliards de dollars d'euros
d'économie.
De réduction de dépenses. Avec pratiquement tous les ministères menacés de coupes et que la sécurité sociale va être durement touchée. Tout cela est dans la presse allemande, d'ailleurs dans votre quotidien économique, c'est écrit dans ce sens. Mais il y a aussi la prise en compte du fait que l'équation la plus importante n'est même pas une équation budgétaire, mais une équation politique. Au journal télévisé de l'ARD, la grande chaîne publique allemande, le titre c'était, sur le sujet, c'était Barnier, la quadrature du cercle. En clair, avec six peu de structuration de son pouvoir au Parlement, comment peut-il mener à terme et à bien ce projet de remise en cause d'une tendance lourde? Et de ce point de vue-là, il y a un grand doute, d'autant que un certain nombre de diplomates européens, notre consoeur à Bruxelles le dira certainement mieux que moi, mettent en doute le fait que la France aille au bout de son discours et que le risque pour la deuxième commission de Ursula von der Leyen, c'est que ça soit sa crédibilité, celle de cette commission européenne, qui soit entachée si elle laissait passer encore une fois le laxisme français.
Et c'est tant beaucoup d'espoir déçu, si je vous comprends bien, Grégoire, pour vous.
Oui, c'est ça, mais aussi vraiment une vision claire sur les risques politiques en France.
Ouais.
Parce que, bien sûr, comme j'ai dit, il y a maintenant ce plan avec 60 milliards d'efforts. Évidemment, ça c'est bien sur le papier, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas important, certes, mais c'est un premier pas néanmoins. Et il faudrait maintenant suivre cette trajectoire dans la durée.
Oui.
Et est-ce qu'il y a vraiment assez de capital politique déjà pour le gouvernement Barnier? Est-ce que ce gouvernement va rester en place assez longtemps? Et il y a toujours aussi ce risque de la mobilisation dans la rue contre des coupes budgétaires en France. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas, après, un grand mouvement contre cette politique d'austérité?
Mais est-ce qu'en Allemagne, à Berlin, l'impatience monte au point qu'on se dise cette fois c'est la dernière fois?
Je pense qu'on ne peut jamais dire c'est la dernière fois, mais il faudrait dire quand même qu'il y a maintenant des règles ou des nouvelles règles pour le pacte de stabilité où la France a aussi mis en avant ou voulait avoir plus de temps pour mettre en ordre ses dépenses publiques. Et je pense que la France a maintenant 7 ans.
Oui.
Et pendant ces 7 ans, il faudrait quand même arriver plus ou moins à 3%.
Avec l'échéance de 3% en 2029. On va à Bruxelles retrouver Béatrice Rieux qui nous a écouté, qui suit les affaires européennes. Béatrice, même question. Comment est-ce qu'on regarde du côté de Bruxelles aujourd'hui les premiers pas de Michel Barnier? On a vu son discours de politique générale, discours très axé sur la question du redressement des comptes publics. Les mots étaient bien choisis. Les chiffres sont sur la table. Est-ce qu'on est prêt à faire crédit à Michel Barnier pour ne serait-ce que quelques mois finalement?
Mais je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est vrai qu'on a des pistes déjà sur la politique économique que Michel Barnier veut amener, mais il va falloir attendre à voir comment ça s'est traduit dans un plan où la France doit aboutir dans les prochaines années à réduire leurs dettes et leurs déficits, comme on disait tout à l'heure, avec les règles fiscales qui rentrent en vigueur encore une fois. On a quand même ces objectifs des 60% de la dette et des 3% de déficit. La France est loin, n'est pas le seul pays à l'être, mais c'est vrai que, comme mes collègues disaient tout à l'heure, avant que quand on avait les règles fiscales, les systèmes n'ont pas été appliqués parce que c'était souvent des grosses économies comme la France, mais aussi l'Italie ou l'Espagne qui avaient des problèmes assez importants au niveau budgétaire. On n'a jamais appliqué à 100% la règle. Ouais. Justement, l'objectif cette fois-ci de faire en sorte que ça soit le cas. Et voilà, on va voir à quoi ça donne ces plans d'ajustement. Et surtout, comme disaient mes collègues, le problème, c'est qu'on ne peut pas être sûr que ça va être vraiment abouti parce qu'à long terme, on a vraiment besoin d'un engagement au niveau politique qui puisse donner les stabilités suffisantes à la France pour faire en sorte qu'il fasse les réformes qu'il doit s'engager à faire avec Bruxelles.
Et en attendant, sur le profil même de Michel Barnier, est-ce que son passé d'ancien commissaire européen, il a été commissaire européen pendant 10 ans, est-ce que vous dites que ça plaît dans sa faveur du côté de Bruxelles et qu'on est prêt à lui donner des gages du fait de ce passé de commissaire européen finalement?
Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on avoue que les États membres se sont rendus compte que la confiance, c'est assez important quand on négocie avec Bruxelles, surtout tous les côtés des politiques économiques et budgétaires. Et d'ailleurs, on a toujours choisi des ministres d'affaires économiques qui soient connus à Bruxelles et qui puissent avoir une relation. Là, tout à l'heure, la France a perdu un poids assez important, un poids lourd, comme Bruno Le Maire, qui était vraiment bien conçu à Bruxelles pour ses engagements politiques au niveau européen. Mais par contre, on a Michel Barnier, qui est très bien regarder de la part de Bruxelles. Là, par contre, c'est intéressant parce que ça change un peu les dynamiques politiques de la France envers Bruxelles, parce que notamment, ça a toujours été le président Macron qui a amené les grains politiques au niveau de Bruxelles et après les ministres qui s'engagent au niveau législatif. Mais ici, dans la négociation économique, je me demande dans quel point ça va être vraiment Michel Barnier qui va s'engager au niveau de Bruxelles et pas nécessairement les ministres d'économie qui ne sont pas en mesure d'avoir des relations assez étroites avec les officiers de Bruxelles.
Ça se confirme au fil des jours, depuis sa nomination à Matignon, depuis son discours de politique générale, depuis ses premières décisions. Ben Aouda, c'est lui qui va faire la différence à Bruxelles, qui va apporter des gages, tout du moins, véritablement ou c'est...
Avec tout le passé qu'a Michel Barnier dans l'appareil et le système européen, comme commissaire européen, mais surtout comme négociateur du Brexit, ouais. Il a effectivement des atouts fondamentaux. Mais après, on en revient à sa majorité, ou sa minorité plutôt, au Parlement. Et à ceux qui le comparent à Mario Monti en Italie, la comparaison ne tient pas. Mario Monti avait derrière lui la classe politique italienne pour mener à bien, le temps qu'il a mené à bien, son programme. Ce n'est pas le cas de Michel Barnier. L'ensemble des Européens attendent en fait les premières échéances, c'est-à-dire lorsqu'il y aura les niches parlementaires du Rassemblement National et de LFI pour la réforme des retraites. LFI,
fin du mois, oui. Exactement. Pour le Rassemblement National, c'est fin du mois. Oui.
Et puis 28 novembre pour le... Et c'est à ce moment-là, s'il passe cet obstacle et qu'effectivement, ça n'aboutit pas à une mobilisation nationale majeure sociale, là, peut-être que les gens se diront « Ah, peut-être la France a son Mario Monti parce qu'il a derrière lui, effectivement, les forces politiques parlementaires. »
Tout renvoie à la fragilité de cette majorité, justement. Oui. C'est ce qu'on disait, Grégoire. Je voyais que chez vous, en Allemagne, dès cet été, on s'est mis d'accord sur les grandes lignes du budget 2025 entre le chancelier SPD Scholz, le vice-chancelier Habeck et le ministre libéral des Finances Lindner. On s'est mis d'accord sur un projet de budget qui ne rogne pas sur le social et qui ne rogne pas non plus sur ce qu'on appelle le frein à l'endettement. Chez vous, on a réussi à mettre ça en place dès le mois de juin dernier, finalement.
Oui, sauf c'était...
Ça nous laisse un petit peu rêveurs, comme toujours, vous savez. Hein, voilà.
Bien sûr, mais pour être honnête, c'était... Ça, c'est beaucoup plus compliqué en Allemagne parce que ce premier budget qui était présenté par Lindner était après revu, parce qu'effectivement, il y avait des doutes si c'est vraiment conforme à ce frein à l'endettement. Et maintenant, il y a un deuxième budget qui était présenté, mais qui n'a pas encore été voté par le Bundestag, par le Parlement allemand. Et dans ce budget, il y a encore un trou de 12 milliards d'euros. Donc, il faudrait encore trouver 12 milliards d'euros, plus ou moins, pour vraiment respecter cette règle constitutionnelle du frein à l'endettement.
L'Allemagne est partie pour une deuxième année de récession. C'est ça qui se
profile
pour le coup.
Oui. Oui. C'est ça. Donc, je pense que ça revient aussi un peu à ce que avant Emmanuel Macron disait toujours, il a averti contre une politique d'austérité, parce qu'effectivement ça peut tuer la croissance, ça peut limiter les marges de manœuvre des investissements dans l'industrie, dans la transition écologique, numérique. Donc c'est évidemment dans cet équilibre où il faudrait trouver une solution.
Ben Aouda,
la dynamique est actuellement méditerranéenne, c'est au-dessus se tourner vers l'Espagne, vers le Portugal ou vers l'Italie pour voir de la croissance et de la dynamique d'exportation et les, comme quoi la roue tourne toujours et elle n'est pas figée.
Je reviens à Béatrice Rio. Je vous posais la question, je pousse un peu sur Michel Barnier parce que je vous posais la question de savoir si sa nomination était un gage de crédibilité pour la France, gage de temps peut-être, mais vous avez vu ce qu'il nous dit l'autre jour dans son discours de politique générale. Il dit « Je veux ramener les déficits à 5% l'an prochain et 3% en 2029 ». Autrement dit, au-delà de ses belles intentions, bah lui perpétue la tradition et continue, mine de rien, d'enfreindre les règles européennes. Est-ce qu'on veut lui apporter du crédit à ce niveau-là, finalement, Béatrice ?
Je pense qu'il est honnête et il est conscient de la situation. Et il ne va pas promettre quelque chose qu'il n'est pas capable d'aboutir.
Est-ce qu'on est prêt à lui accorder ces délais ? Au-delà de son existence politique, de sa longévité politique, bien sûr.
Oui, en fait, je pense que l'avantage de la France à ce moment-là, c'est justement que la règle rentre en vigueur, qu'il y a quand même une certaine flexibilité pour faire en sorte que les pays puissent s'adapter à ces nouvelles règles, qui est d'ailleurs l'idée de ces nouvelles règles fiscales, c'est s'adapter à la situation politique et économique de chaque pays. Donc, je pense qu'il y a une certaine flexibilité et que la France va se bénéficier de cette flexibilité dans ces cas-là. Et d'ailleurs, il pourra avoir quand même un peu plus de temps pour préparer ses plans où ils vont faire des engagements par rapport à Bruxelles pour faire en sorte que ces dettes et ces déficits soit réduit dans les prochains mois. Alors, ça reste toujours le problème de faire en sorte que ces engagements qui sont à niveau des années soient respectés parce que justement, la situation politique, c'est un peu compliqué. Mais je voulais revenir justement parce que vous en parlez de l'Espagne que je connais assez bien.
Oui.
Et c'est un cas intéressant justement dans ces questions-là parce que justement, l'Espagne a les mêmes soucis au niveau de stabilité politique. On a quand même un gouvernement de minorité qui a quand même besoin de support de la part du Parlement pour faire en sorte que la politique budgétaire aboutissent. Et d'ailleurs, on n'a pas débougé nous-mêmes. On attend encore les supports de certains partis politiques, notamment catalans, qui sont en train de faire leurs propres réformes au niveau des partis politiques. Mais pour l'Espagne, ce qui a aidé beaucoup, c'était justement l'utilisation de fonds de la part de plan de relance. Et là, la Commission même, elle a dit que justement la France pourrait faire la même chose, pourrait faire en sorte qu'utilise ces fonds de relance dans un contexte où ils vont faire quand même des coupes au niveau de la dépense publique.
Voilà donc pour la situation de l'Espagne, effectivement, dont on parle beaucoup depuis que le 10 ans espagnol est passé sous celui de la France pour la première fois. Voilà, c'était il y a ça une dizaine de jours, 18h30 sur BFM Business. 18h30, je vous redonne les grands titres de l'actualité. C'était attendu, c'est officiel. L'Union européenne a voté il y a quelques heures en faveur d'une surtaxe sur les voitures électriques importées de Chine. C'est passé, mais de peu. 10 pays sur 27, dont la France, ont voté pour. 12 se sont abstenus et seulement 5 ont voté contre, dont l'Allemagne. On va en reparler, bien sûr, dans un instant. Les mots très cash de Michel Barnier aujourd'hui encore. La crise financière est devant nous. Il faut la prévenir, a dit le Premier ministre lors d'un déplacement en région. Il a encore justifié la baisse de dépenses de 40 milliards prévues dans le cadre du budget. Ce freinage est indispensable, a-t-il déclaré. Puis l'action Ubisoft en forte hausse ce soir, plus 30%. Des rumeurs de presse qui font état d'un possible rachat de l'éditeur de jeux vidéo français par le chinois Tencent et par la famille Guillemot, qui sont d'ores et déjà actionnaires, respectivement à 10 et 15%. 18h31, on revient dans un instant avec nos experts sans frontières jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts sans frontières.
Allez, 18h35, nos experts sans frontières sont là comme tous les vendredis pour décrypter ensemble l'actualité économique en France, vue de l'étranger. On est toujours avec Benaoud Abdedaïm, bien sûr, Grégor Wachinski pour Handelsblatt à Paris, quotidien économique allemand, et Béatrice Rios qui est avec nous, bien sûr, depuis Bruxelles. On va parler du vote aujourd'hui européen sur les véhicules électriques. D'abord, un petit mot encore sur la France, parce que vous savez que la semaine dernière, Emmanuel Macron est allé à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et on savait qu'il avait, en marge de cette rencontre des Nations Unies, rencontré des investisseurs américains. Reuters nous en dit un peu plus aujourd'hui sur cette réunion qui a été calée en une semaine, montée en une semaine par l'Elysée. Il y avait les patrons de Goldman Sachs, de Blackstone, des patrons que Emmanuel Macron croise tous les ans à Choose France, bien sûr, à Paris. Et Reuters nous raconte, entre autres, que Emmanuel Macron, pendant cette réunion, a parlé des hausses d'impôts en France, qui devaient être très ciblées, très temporaires. Un participant estime, sous couvert de l'anonymat, que le fait qu'il se soit montré proactif avec les investisseurs était, je cite, plutôt intelligent. Un autre souligne qu'on lui a posé des questions sur l'intelligence artificielle, sur le nucléaire. il a de lui-même demandé cette réunion. Est-ce qu'il a anticipé le verdict des agences de notation financière? Parce que vous savez que ça va commencer la semaine prochaine. Les agences vont commencer à se prononcer, Fitch notamment la semaine prochaine. Une question qu'on se pose, l'Allemagne parle avec qui aujourd'hui finalement, Grégor? Avec Emmanuel Macron, avec Michel Barnier ou d'autres responsables politiques dans ce contexte un petit peu compliqué politiquement parlant?
Oui, c'est la grande question que le gouvernement allemand se pose aussi. Déjà, il y a Emmanuel Macron, mais en même temps Michel Barnier, sur les questions des finances, on en avait parlé, il y a Armand et Laurent Saint-Martin, oui. Donc il y a même deux ministres pour le budget.
Vous êtes deux têtes à l'exécutif, deux ministres à Bercy, c'est ça? Oui.
C'est ça, et après il faudrait dire aussi qu'il y a toujours la question, est-ce que derrière les coulisses parfois, il y a même Marine Le Pen parle un petit peu, parce qu'il y a cette menace d'une motion de censure, donc peut-être il y a aussi avant la nécessité de trouver un accord avec une partie au moins du RN. Donc il y a vraiment cette nouvelle situation très très complexe en France qui rend la coopération entre la France et l'Allemagne beaucoup plus difficile.
Béatrice Rios, même question, est-ce qu'on cherche le bon interlocuteur? On se demande à qui s'adresser aujourd'hui du côté de Bruxelles vers Paris. Comment est-ce que vous regardez ça?
Mais comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant justement le rôle qu'il va prendre Michel Barnier, que je pense qu'il va être un premier ministre en France beaucoup plus important de ce qu'on a vu dans les passés. Et je trouve que dans certains sujets, il va avoir un voix beaucoup plus important à Bruxelles qu'avant. Mais quand même, Emmanuel Macron reste l'interlocuteur assez important, surtout au niveau des États membres, mais quand même à Bruxelles aussi, parce que lui, il a un poids politique important. Et je pense que même si Michel Barnier pourrait jouer un rôle assez important, surtout sur la politique financière, ça reste Emmanuel Macron.
Benaoudé Abdedaïm, quel est l'interlocuteur?
On verra au prochain Conseil européen si le Premier ministre tente de grappiller un peu du pouvoir du président de la République, ce qui créerait peut-être des remous politiques plus qu'il n'en faut. Mais pour l'instant, il ne donne pas d'indication qu'il veuille aller sur ce terrain, celui du chef de l'État au Conseil européen où se décide la politique européenne.
Voilà pour la situation de la France aujourd'hui. On voulait parler un petit peu d'Europe aussi ce soir, parce qu'il y a la France dans l'Europe, l'Allemagne en Europe, l'Allemagne dans tous ses États. On a parlé encore, deuxième année de récession qui se profile. L'Europe qui perd ses repères, nouvelle illustration aujourd'hui avec ce vote, vous savez, en faveur de l'imposition des véhicules électriques importés de Chine, surtaxe qui a été votée. Mais ça n'a pas été sans mal, puisque vous avez une mesure qui a été votée par 10 États seulement, dont la France, l'Italie et la Pologne. Ça a suffi, parce qu'en face, vous avez 12 pays qui se sont abstenus, dont l'Espagne et la Suède, qui a fait part de leur hostilité. Et en parallèle, 5 pays, dont l'Allemagne, qui ont voté contre ce dispositif. Je vous laisse regarder, si vous nous suivez à la télévision, le tweet dans la foulée du ministre allemand des Finances, Christian Lindner, qui l'a dit clairement, Bruxelles ne devrait pas déclencher de guerre commerciale malgré son vote. Nous avons besoin d'une solution négociée. On a l'impression que ça aussi, ça va accentuer la fracture entre les deux grandes capitales finalement. Grégor, comment est-ce que vous regardez cet épisode, cette séquence?
Oui, parce qu'il y a déjà une dépendance beaucoup plus prononcée de l'économie allemande par rapport à la Chine. Il y a bien sûr les producteurs de cognac en France qui ne sont pas contents, mais en Allemagne, ça c'est vraiment l'industrie automobile qui est en première ligne. Donc il y a cet intérêt du gouvernement allemand, mais aussi de l'économie allemande, de ne pas entrer en guerre commerciale avec la Chine.
Ouais. Il dit beaucoup de choses, ce vote très épars, Benaouda. Je disais, 10 pays qui votent pour, 12 qui s'abstiennent et 5 qui votent contre. Voilà,
c'est vraiment une ligne de partage dans les conceptions de ce que doit être le commerce international. C'est clair et net. Mais ça dit aussi de quelque chose de la tactique qu'a employé la Chine pour s'adresser uniquement aux grandes capitales. Certains disent si les Chinois avaient mis autant de capital politique, de lobbying auprès des petits pays, peut-être qu'ils auraient pu renverser ce vote à s'être concentré uniquement sur les grandes capitales, l'Espagne, la France, enfin les grands pays, l'Espagne, la France, l'Allemagne, et avoir délaissé tous ces petits, entre guillemets, abstentionnistes, ils n'ont pas eu, peut-être qu'ils auraient pu faire pencher la balance dans l'autre sens. Ce qui montre aussi que la Chine aussi a une perception du fonctionnement interne de l'Union européenne qui est peut-être plus en conformité avec la réalité des rapports de force. Et il y a un autre point sur lequel on peut insister, sur le fait que le ministère chinois du commerce, cet après-midi, a vraiment pris soin de dire que la négociation n'est pas rompue, qu'il y a eu déjà plus d'une dizaine de consultations techniques de part et d'autre, mais qu'il faut vraiment maintenant lutter contre les pratiques protectionnistes de l'Union européenne, dans ce cas, et que ça relève maintenant de la volonté de la Commission européenne de régler le problème par la négociation. Donc, les Chinois ne semblent pas vouloir déclencher les représailles tout de suite contre le cognac français, le port espagnol ou l'automobile allemande. Donc, de ce point de vue-là, on est encore dans un entre-deux, ce qui laisse peut-être la place à une solution négociée de part et d'autre. La Commission européenne dit que ça doit se faire en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. On va voir ce que ça va donner.
Béatrice Rios à Bruxelles. Ursula von der Leyen a dit aussi, a pris soin de dire tout à l'heure, les négociations continuent avec la Chine malgré ce vote auquel elle ne touchera pas. Elle l'a dit aussi, ça, dans la foulée, bien sûr.
Oui, d'ailleurs, la Commission européenne s'est engagée à continuer la négociation avec la Chine. Ça fait quelques semaines juste, on avait une représentation de la Chine ici, justement pour négocier là-dessus. Je pense qu'il y a quand même de marge. Et justement parce que ce vote-là montre qu'il y a une division assez importante entre les États membres dans le sens où ces politiques commerciales devraient y aller. Je pense que c'est quand même une manière d'amener la Commission à faire en sorte qu'il continue avec ces négociations et qu'il essaye de trouver une manière de résoudre ce problème. Ou déclencher une guerre commerciale qui pourrait avoir un impact assez important pour l'économie européenne.
Mais quand on dit on poursuit le dialogue concrètement, même si ce vote a été effectif aujourd'hui, validé, entériné, qu'est-ce que ça veut dire continuer à négocier malgré tout, Béatrice ?
En fait, les tarifs ne rentrent pas en vigueur pour le moment. La négociation continue et on sait qu'il y a des contacts, même à niveau technique, mais aussi à niveau politique, pour faire en sorte qu'on puisse trouver une solution. Il faut savoir que la dépendance qu'il y a de la part des États européens, surtout des batteries de la Chine, c'est assez important. Donc, c'est pas, ça marche pour personne d'avoir une relation compliquée avec la Chine. Et c'est pour ça qu'on voit des efforts quand même. Mais c'est aussi vrai que la position de la Commission par rapport à la Chine, ça a été encore plus fort qu'elle a de certains États membres entre l'Allemagne et ils sont en fait lancés une investigation pour prouver justement que la Chine utilisait des suivis pour faire en sorte que les voitures électriques sont beaucoup moins chères en Chine et que ça a un impact sur les marchés européens. Mais quand même, il y a des efforts pour voir s'il y a un moyen de résoudre ce problème-là.
Ben Aoud Abdedaïm.
Ça va être extrêmement difficile d'un point de vue technique de démontrer que l'État chinois ne subventionne pas ces véhicules électriques et ne fausse pas le marché aux yeux de l'Union européenne. Au demeurant, il y a cette volonté-là. Et puis, il y a l'idée fondamentale qu'il y a une dépendance très importante dans les deux sens. Parce qu'on insiste beaucoup sur la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, mais il y a aussi une dépendance de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne. Il y a une note du CEPI, le Centre de recherche économique français, qui date du mois dernier d'ailleurs, et qui explique que les dépendances des Chinois à ce que produit l'Union européenne sont trois fois supérieures à ce qu'elles sont vis-à-vis des produits américains. Donc, en clair, les Chinois sont beaucoup plus dépendants dans les produits électroniques, dans les produits pharmaceutiques, dans les produits de l'agroalimentaire, dans certains produits chimiques, de la production européenne que de la production américaine. Donc, dans ce sens-là, d'une certaine façon, et Bruxelles a encore une marge de négociation par rapport à Pékin que, paradoxalement, à moins Washington.
Pour la grande satisfaction des Allemands, il faut prendre conscience de la sensibilité du sujet chez vous en Allemagne, Grégoire, véritablement.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a, comme j'avais déjà dit, il y a beaucoup plus de dépendance, non seulement du secteur d'automobile, mais aussi d'autres secteurs d'exportation. L'Allemagne comme économie d'exportation plus généralement de la Chine. Parlons des négociations à Bruxelles qui vont se poursuivre peut-être, mais en Allemagne, il y a vraiment plutôt cette idée que pour la France, ça ne c'est pas vraiment une question technique, ça c'est une question politique, parce que derrière se trouve la vision d'Emmanuel Macron de la France, d'une souveraineté européenne beaucoup plus protectionniste. Donc je pense en Allemagne, on ne croit pas vraiment qu'il y a une négociation en bonne foi, juste sur les termes techniques qui pourraient se produire avec la Chine si la France s'oppose.
Il y a une prudence évidemment, alors égard bien sûr au poids de l'industrie automobile en Allemagne chez vous. Vous me disiez pendant la pause, on me demande aussi d'écrire sur la crise de l'industrie automobile française.
Oui.
Qu'elle aussi souffre.
Parce que c'est quand même assez extraordinaire que quelques semaines...
Alors, quel comparatif vous faites avec la situation de l'industrie automobile allemande, finalement?
Oui, c'est ça, exactement. Voilà, parce que on a maintenant le premier constructeur allemand, Volkswagen, qui est en crise, qui va annoncer, ou qui a déjà annoncé un plan d'économie, qui va peut-être même fermer des sites en Allemagne. Et... quelques jours ou quelques semaines après, on apprend que ça marche pas très bien chez Stellantis non plus. Donc, on a vu ça dans la foulée de la crise de Volkswagen. On voit maintenant aussi en France, il y a des problèmes avec le secteur automobile.
Ouais. Béatrice Rios à Bruxelles, je continue sur ce thème de l'automobile parce que il y a une grande pression. On l'a entendu il y a de ça quelques jours de l'ensemble des grands constructeurs européens automobiles pour repousser les échéances de l'an prochain, le déclenchement de ces nouvelles normes CO2, est-ce que c'est un appel qui est entendu à Bruxelles? Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui finalement?
Je pense que c'est entendu et d'ailleurs on avoue comme dans des autres législations ça a des impacts, notamment dans la question de la prohibition de l'importation des produits qui ont été produits dans un cas de déforestation. Donc je trouve que ça ouvre quand même la porte à que la Commission européenne puisse se poser la question de s'il ne faudrait pas remporter l'application de cette législation dans un cas de crise notamment et surtout si on voit des tensions beaucoup plus importantes avec la Chine. Moi, je pense qu'en général, il y a quand même toute la question que je pense que Benoît a mentionné avant, à quel point le protectionnisme, c'est la politique commerciale que l'Europe veut mener. Il y a certains États membres qui se sont mis dans ce sens-là. Il y a des autres États membres qui pensent que justement, ce qu'il faut faire, c'est investir dans l'industrie européenne pour faire en sorte qu'ils soient suffisamment fortes pour faire face à la concurrence de la Chine. Donc, je pense que tous ces genres de problématiques posent des questions assez importantes qui en fait ont été abordées aussi de la part de Mario Draghi dans son rapport, d'essayer de trouver une cohérence quand même entre la politique industrielle et commerciale de l'Union européenne au sein de marché intérieur, mais aussi envers les pays tiers.
Ben Aouda.
Oui, Béatrice Rios l'a dit, il y a une brèche qui s'est ouverte. La Commission européenne, en proposant de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la législation européenne contre la déforestation, va ouvrir d'autres brèches de la sorte. Et donc, ça peut aller dans le sens des constructeurs européens. Mais ce que disent les Chinois, et la presse chinoise insiste sur ce point, c'est que... contester aussi notre qualité. Comparer une voiture BYD avec une Volkswagen ou une Peugeot. Premier point. Deuxième point, en Chine, il faut voir que pratiquement la moitié des ventes de véhicules neufs, ce sont des véhicules électriques. Oui. En clair, nous sommes en avance sur vous techniquement, du point de vue de la qualité et du point de vue de la dynamique de marché. Donc reprochez-nous des éléments factuels, pas uniquement des histoires de subventions.
Grégoire, oui.
Oui, c'est ça, parce que si on regarde après les ventes de Volkswagen, de Mercedes, ces constructeurs allemands en Chine, ce sont encore des voitures thermiques. Mais il n'y a presque pas de part de marché en Chine pour les constructeurs allemands en ce qui concerne l'électromobilité. Donc... peut-être, il y aura peut-être dans 2 ans, 3 ans, il n'y a pas vraiment cette dépendance allemande de la Chine dans le secteur automobile.
Le grand malaise de l'industrie automobile européenne. Il y a une autre pomme de discorde dont vous voulez dire un mot, parce qu'apparemment, on vous demande, on vous fait écrire, chez Handelsblatt, sur ce papier, c'est la divergence de vue entre français et allemands sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Cet accord dont Emmanuel Macron dit pique-pendre depuis 2 mois et que les Allemands veulent conclure très vite. Olaf Scholz l'a encore dit hier, nous voulons conclure très très vite. Comment est-ce que les choses peuvent tourner pour vous de ce point de vue-là, sur ce chantier?
Le gouvernement allemand a encore vraiment espéré que Emmanuel Macron et la France, le gouvernement français, va changer d'avis après les élections européennes. C'était début de cette année. Et maintenant, il y a vraiment un nouveau réalisme à Berlin, on cherche encore des partenaires en Europe qui sont plutôt pro-libre-échange, mais ils sont de plus en plus difficiles à trouver. Et on parle parfois même maintenant d'une certaine défaite de l'Allemagne sur la politique commerciale en Europe, parce que c'est visiblement la position française qui va rester la position dominante à Bruxelles.
Il y a une divergence très forte entre les grandes puissances européennes sur ce sujet.
Tout à fait. Le discours, le propos du chancelier Scholz prononcé devant une fédération patronale allemande qui demandait du pragmatisme et de la flexibilité. c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas de pragmatisme et qu'il n'y a pas de flexibilité à Paris, pour être clair, et qui c'est le même discours de Pedro Sanchez lorsqu'il a rencontré le président Lula, le président brésilien, en expliquant que ceux qui sont contre le Mercosur, contre cet accord de libre-échange avec le Mercosur, n'ont pas saisi le bouleversement historique qu'a représenté la guerre russo-ukrainienne et qui contraint à diversifier, qui contraint l'Europe à diversifier ses partenariats commerciaux. En quelque sorte, c'est une mise en cause de la France, tant et si bien que, alors Béatrice Rios a peut-être des informations à ce sujet, que à Bruxelles, on envisage peut-être de scinder le texte pour mettre de côté, en quelque sorte, les éléments qui pourraient fâcher la France et que finalement, cette zone de libre-échange ait bel et bien lieu avec un vote, non pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée pour passer au-dessus de la France. C'est peut-être une hypothèse.
Béatrice Rios, est-ce que vous avez eu vent de ce genre de solution? Un texte scindé, justement, pour satisfaire toutes les parties?
Oui, on est au courant que ce genre de conversation se tient, mais par contre, c'est vrai que ça crée quand même des problèmes parce qu'on avoue certainement que ça a été le cas, surtout avec l'accord de commerce avec le Canada, qui ont essayé justement de laisser de côté certains sujets qui surtout à la Belgique, c'était très problématique, mais qu'à long terme, ça crée toujours des problèmes et que l'accord de commerce ne rentre à 100% en vigueur justement parce qu'on essaye de résoudre ces problèmes-là. Donc à long terme, ce n'est pas très clair si ça sera la manière de résoudre le problème. Par contre, c'est vrai que je trouve que le problème avec le Mercosur, ce n'est pas nouveau. Enfin, ça fait 20 ans qu'on négocie cet accord. Ça fait 20 ans qu'on s'est dit que cette année, ça va marcher. D'ailleurs, l'Espagne, c'était un de ses objectifs pendant la présidence. Ça n'a pas du tout marché. Et on reste quand même sur les mêmes soucis. La France trouve toujours une raison pour s'opposer. Et donc, on n'arrive pas vraiment à avoir suffisamment de support. Mais comme vous disiez, ça pose des questions sur la politique commerciale européenne. D'un côté, justement, parce qu'il y a cette tendance à essayer de chercher des nouveaux partenaires commerciaux, essayer d'ouvrir un peu le jeu à des autres côtés du monde aussi parce qu'on a besoin de cette relation diplomatique, pas qu'économique. Mais justement, il y a des pays qui mettent en question cette politique commerciale de l'Union européenne qui a été en quelque sorte aussi une forme de politique diplomatique dans le passé, notamment en pensant que parce qu'on a des relations commerciales et économiques étroites, on va empêcher d'avoir des problèmes politiques et stratégiques avec certains pays, ce qui est malheureusement prouvé très faux dans les cas de la Russie. Mais justement, il y a des pays qui mettent ça en question, mais aussi certains objectifs de cet accord commercial, notamment ce qui est des objectifs de réduction d'émissions, de questions de climat, mais aussi des droits de l'homme et des droits des travailleurs, et qui se disent non, il faut arrêter d'essayer de tout aboutir avec des accords commerciaux. Il faut vraiment faire le focus sur les questions purement commerciales et économiques. Donc ça reste toujours un débat, et je pense que le Mercosur, c'est un très bon exemple de ça.
Il y a un sujet autour d'un vrai changement de logiciel sur ces questions, véritablement.
Et puis, je sais qu'on est en Europe et donc on parle de la position européenne, mais parcourez la presse en Uruguay ou au Paraguay. Pour eux, ce sont les Uruguayens qui ont inventé ce concept. Les Français, les Européens au sens large et les Français en particulier font preuve d'un néoprotectionnisme environnemental. En clair, vous utilisez des normes vertes pour restreindre le commerce en fonction de vos intérêts, en fonction de vos normes, aux dépens de nous qui sommes des pays en développement ou en devenir. C'est aussi ce que disent les agriculteurs paraguayens qui estiment que ce sont des exigences arbitraires, je cite leur association d'agriculteurs, qu'on est en train de céder à une tentation de colonisation idéologique de la part de l'Union européenne sur les pays de l'Amérique du Sud, comme si on n'avait pas, sinon on n'était pas des États souverains. Il faut aussi prendre en compte les opinions publiques là-bas.
Oui.
Et je finis par là, en discutant avec un diplomate brésilien, il nous disait, vous savez qui est le premier employeur privé étranger au Brésil? C'est la France. Donc, c'est vous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de leur point de vue. Ils ont l'impression qu'il y a un double discours sur les grandes tirades sur la solidarité latino-américaine, mais qu'en réalité, lorsqu'il s'agit de passer cette étape fondamentale qui, effectivement, dure depuis plus de 20 ans, on ne veut pas y aller.
Et ben voilà pour cette pomme de discorde et cet accord. Effectivement, vous le rappeliez, qu'on discute, qu'on négocie depuis plus de 20 ans l'accord du Mercosur. Il nous reste 30 secondes, peut-être, pour parler diplomatie. Ah, je sais qu'il y avait une des vérités d'en parler un petit peu sur la voie de l'Europe au Moyen-Orient. On a entendu Josep Borrell il y a quelques jours de ça parler un petit peu d'un risque de guerre totale. Mais à vrai dire, Ben Aouda, c'est quand même très faible. La voix de l'Europe n'est pas très audible dans ce conflit.
Extrêmement faible. On a entendu le chef de la diplomatie européenne sortant, Josep Borrell, prendre tant bien que mal la défense du secrétaire général des Nations Unies face à la position d'Israël qui a été de le déclarer persona non grata. Et je renverrai juste à une interview qui a été publiée dans le NRC, journal d'Amsterdam,
oui,
en quotidien d'Amsterdam, qui disait qu'en gros, il n'y a plus que la France comme seule puissance occidentale qui ne se range pas inconditionnellement du côté d'Israël. Bon, elle a peut-être oublié aussi l'Espagne, mais en tout état de cause, c'est l'idée qu'on est incapable, enfin les Européens sont incapables de prendre une déclaration commune. La République tchèque a refusé qu'il y ait une déclaration commune lorsqu'il y a eu l'attaque iranienne, la dernière attaque iranienne. De ce point de vue-là, il y a une incapacité à trouver une position commune.
Grégor Wajnicki pour Handelsblatt.
Oui. Après, je pense que ça ne c'est pas seulement une question de prise de position, mais aussi après, est-ce que l'Europe ou est-ce que quelqu'un, même la France en Europe, aura la capacité d'influencer la situation sur place, peser sur, par exemple, la position israélienne? J'ai mes doutes.
Béatrice Rioz, en quelques secondes, toujours pas de numéro de téléphone à Bruxelles pour reprendre la célèbre formule de Kissinger.
Tout à fait d'accord avec mes collègues. L'Union européenne a un problème, d'un côté parce qu'elle n'arrive pas à avoir un seul voix quand on parle des affaires étrangères, mais aussi parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à avoir suffisamment d'influence pour faire en sorte que ça se traduise dans des vraies actions. Et donc on va toujours avoir les mêmes soucis, même si on est dans un contexte extrêmement grave et avec des conséquences déjà pour plusieurs pays et notamment aussi par l'Europe à long terme.
Ouais. Et ben voilà pour la situation, il fallait en dire un mot, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les trois, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour ces Experts sans frontières. Béatrice Rioz donc était avec nous depuis Bruxelles, journaliste spécialiste des affaires européennes. Grégory Wajnicki, merci beaucoup Grégory, à très vite avec plaisir, correspondant du Handelsblatt à Paris. Puis Benaouda Abdedaïm, merci beaucoup Benaouda, éditorialiste international BFM Business. 18h57, c'est la fin de cette émission. Je vous redonne les grands titres de l'actualité dans un instant et puis Fred Mazella, les pionniers qui vous accompagnent dans la foulée jusqu'à 20h. Très bonne soirée, à lundi.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.